Bonjour. Alors moi c'est Margot, je vis à Rennes là depuis 5 ans et je suis pas mal active dans différentes assos, militantes, féministes et autres depuis que je suis arrivée, notamment Sexclam. Je fais partie d'un collectif de traduction qui s'est créé pour l'occasion de la traduction de Girl Sex 101, qui est un collectif qui s'est donné le nom de Sexitrad. Et du coup on est une dizaine de personnes, meufs, cis ou queer, dont à la base, en tout cas, notre point commun pour traduire ce bouquin, c'était d'avoir déjà eu des relations avec d'autres meufs. Voilà, avec ce flou un peu de, on définit pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est juste de se considérer comme personne queer et bi ou homosexuelle, quoi. Et moi, ma place dans ce collectif, ben comme celle des autres, quoi, j'ai participé à la traduction et aux décisions collectives sur un peu les grandes questions que ça pose de traduire un gros livre comme ça.
Rien de mieux que des années à baiser avec des femmes pour prendre confiance en soi. Mais avant que le super étalon qui sommeille en vous ne se réveille, il faudra accepter de ne pas vous sentir très à l'aise par moment. Donc ouais, draguer ça fait peur. Mais ce n'est pas une fatalité. Draguer c'est tout simplement apprendre à connaître quelqu'un, quelqu'une, tout en étant un peu joueur, joueuse. Quand on flirte, on cherche si nos styles de jeu sont compatibles. Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de taquiner quelqu'un, quelqu'une pour l'allumer et que la personne le prenne mal ? Ou d'être blessé par la manière dont quelqu'un, quelqu'une vous fait des avances. En général, ce n'est pas parce que l'un, l'une d'entre vous est relou, mais plutôt parce que vous avez des manières différentes de jouer. D'autres personnes ont besoin d'établir une base de confiance avant de pouvoir flirter avec quelqu'une. D'autres personnes ne peuvent pas réussir à faire confiance s'il n'y a pas avant un minimum de jeu et d'excitation.
J'ai lu dans l'introduction que du coup, y avait certains passages que vous avez choisi de ne pas traduire. Comment ça s'est départagé un peu ce choix de qui traduit quoi, qui fait quoi dans la traduction ?
Alors déjà, les passages qu'on a choisi de pas traduire, c'était pas tant, je pense, par manque de temps que par manque d'envie. En fait, il nous plaisait moins, c'était du récit, de la fiction qu'on trouvait pas très intéressante. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que c'est compliqué de traduire de la fiction. Et de rendre compte d'une ambiance dans la fiction, alors que le reste du bouquin il est un peu plus factuel, même s'il y a des blagues, même si on n'est pas que sur du pratico-pratique, mais en tout cas c'était plus simple d'aller chercher des termes plus factuels qu'une histoire. Et comment on s'est organisé ? Bah, en fait on s'est réunis plusieurs fois pour déjà commencer par se dire en effet qu'est-ce qu'on a envie de traduire, d'identifier un peu les parties qu'il fallait qu'on traduise tous ensemble pour se mettre d'accord sur les mots qu'on allait employer sur le reste du livre. Et une fois qu'on a eu fait ça, on s'est répartis par chapitre de traduction. Il y a des personnes qui ont pris plusieurs chapitres, d'autres qui n'ont pris qu'un, d'autres qui ont été en soutien, relecture de personnes. Enfin voilà, ça s'est fait un peu selon les moyens et l'énergie disponible de chacun, chacune.
D'accord. Et du coup, tu disais tout à l'heure que vous n'aviez pas toutes et tous le même niveau d'anglais, etc. Donc il y avait aussi ce truc dans le travail collectif de... Comment dire d'apprendre aussi peut-être ce travail-là qui était tout nouveau.
Bah oui, pour moi, il y a deux choses. Il y a déjà, en effet, le niveau d'anglais qui va venir jouer, je pense, sur le temps qu'on va mettre à traduire un passage du livre. Parce qu'aujourd'hui, on a un truc magnifique qui s'appelle l'Internet et qui fait que quand on traduit sur son ordi, on peut vite aller chercher le sens d'un mot qu'on comprend pas bien. Et en plus, on a d'autres ressources que le dictionnaire et que les sites de traduction classiques, en fait, et que du coup, parce qu'il y a beaucoup d'argot dans ce bouquin en anglais, donc d'aller chercher la signification d'expressions qui vont pas être sur reverso.net ou comprises par Google Trad, quoi. Donc pour moi, il y a ce premier truc de niveau d'anglais qui joue et qui fait qu'on va y passer du temps différent. Mais en fait, le travail de traduction, ça s'apprend aussi. Et de rendre des phrases intelligibles et qui ont du sens, en fait, on peut pas transposer simplement... mot par mot ce que ça dit, et derrière du coup on peut se retrouver à s'arracher les cheveux pour une phrase de 5 mots parce qu'on sait pas comment le formuler pour en garder le sens et en même temps que ce soit agréable à lire et à entendre en français, quoi.
Est-ce qu'il y a un passage toi dans le livre que tu as traduit ou pas d'ailleurs qui t'a marqué?
Ben moi j'ai traduit le passage Anatomie et orgasme. Donc je me suis lancée là-dedans sans regarder la taille du chapitre et je pense que c'était le plus gros. Mais j'ai réussi, j'ai tenu jusqu'au bout. Et là-dedans, je pense qu'il y a deux choses qui m'ont marquée un peu dans ce travail de traduction. Déjà, la première, c'est que sur l'anatomie, du coup, c'était des schémas avec des schémas assez détaillés avec des noms, du coup, de parties anatomiques des organes génitaux. Et en fait, j'ai galéré parce que je trouvais pas la traduction de certaines parties. Et je trouvais ça hyper intéressant d'aller chercher sur des sites de médecine. J'ai vraiment passé du temps à aller chercher ce petit truc-là, comment on pourrait le traduire. Et je me demande même si j'en suis pas venue à, genre, du coup, presque traduire littéralement certains mots parce que je l'ai pas trouvé sur des trucs anatomiques très précis français. Donc à devoir recouper avec d'autres précis d'anatomie anglais et d'aller voir un peu comment je pouvais utiliser ce mot-là. Mais donc sur un truc de waouh, on est un collectif de trad amateurs et là on est en train de peut-être poser des mots qui vont être réutilisés plus tard. Enfin, c'est pas rien quand même et ça en dit long sur notamment l'anatomie des vagins, des vulves là. Il y a des choses qui n'ont pas l'air de beaucoup intéresser nos chercheurs. Et l'autre point, moi, qui m'a marqué, je pense que c'est très personnel, mais ça me va de le partager, c'est toute une partie qu'on a un peu lue là sur apprendre à se connaître soi-même, et notamment sur les questions de masturbation et de. Déjà, c'est cool. Enfin, de se masturber, ça aide à connaître son corps. Enfin, en tout cas, si on a du désir sexuel, c'est chouette de savoir, d'avoir envie et de savoir le faire seul. Mais en fait, une fois qu'on sait le faire, c'est cool d'aller de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher d'autres trucs. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. On n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'on en est encore au stade de dire aux gens, en fait, c'est super important de se masturber. Enfin, pour les femmes ou en tout cas les personnes qui ont une vulve ou un vagin, de les mettre en confiance là-dedans et de leur dire. Vas-y, donne-toi du plaisir. Moi, je trouve ça super et il faut qu'on se batte pour ce droit-là et tout ça. Mais derrière, c'est une fois qu'on a trouvé une technique, comment on va en trouver d'autres et comment on apprend à connaître son corps avec d'autres manières et pas se reposer sur « Ok, il y a un truc qui marche, ouf, c'est bon ». Voilà, moi, c'est un des trucs qui m'a marqué.
C'est parfois difficile de trouver ce qui nous plaît. Parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas encouragés à se donner du plaisir, c'est-à-dire à se masturber. Nous prenons rarement le temps de cartographier notre réponse au plaisir. Parfois, nous ne savons pas que nous aimons la stimulation clitoridienne plus que la pénétration, ou un peu d'anal en combinaison avec une pression sur le point G. Trouver ce qu'on aime prend du temps, de l'énergie, et surtout, une bonne dose de curiosité.
Et du coup, l'objet de ce manuel, pour toi, c'est quoi ? C'est à la fois de mettre en lumière des choses qui sont complètement éjectées, on va dire, comme tu disais, par la médecine, etc. Il y a des gros manquements. Et aussi de briser des tabous, peut-être, et de créer du lien, quoi. Comment tu définirais le but militant ou les buts militants de ce bouquin ?
Pour moi, il y en a plusieurs. En effet, il y a un truc d'aller causer de façon à la fois un peu... Ouais, philosophique, c'est un peu fort comme mot, mais de causer à la fois du pratique au pratique, genre comment on fait un cuni, des techniques de masturbation, on le voyait pas pendant la lecture, mais en fait il y a des schémas très précis de ce qu'on peut faire, et en même temps tout ce qui est moins tangible, qui va être de l'ordre de en fait la drague, comment ça peut se passer, le consentement c'est quoi, comment ça marche, le drama queen, qu'est-ce que c'est, peut-être en fait ça pue, est-ce qu'on l'évite ou pas, et du coup je pense qu'on n'a pas d'équivalent comme ça, enfin en tout cas au moment où on a voulu traduire le livre, on n'avait pas d'équivalent. Toute orientation sexuelle et genre confondus qui venaient aborder tous ces sujets-là dans un même bouquin et de façon globalement assez pertinente, même si on a bien posé qu'on n'était pas d'accord avec tout ce qui était dit et que ça, on est OK pour en parler et pour l'assumer en tout cas. Donc y avait, pour moi en tout cas, il y avait cet enjeu-là vraiment. Et il y avait aussi l'enjeu de visibiliser la sexualité entre meufs, quoi, vraiment. Entre meufs et entre personnes queer, enfin en tout cas de décentrer la sexualité hétéro et de faire un bouquin pour ces gens-là. Parce que des manuels pratiques hétéro, ouais, c'est bon, on en a vu passer un peu, qui sont d'ailleurs pas toujours très pertinents. Et que du coup, il y en a encore moins pour les personnes LGBT.
Mais alors, comment vous faites pour baiser, avec des guillemets ? Cette question est vraiment agaçante, n'est-ce pas ? Les hétéros posent tout le temps cette question aux meufs queer. Les meufs queer la posent aussi aux meufs trans et à leurs partenaires. Il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir des rapports sexuels. Tout comme n'importe qui, les meufs trans ont des pratiques super diversifiées. Bien sûr, il y a des choses qui reviennent, mais tout le monde est différent. Évitez les suppositions.
Bon, ça s'est passé la collaboration avec les éditions Water, du coup, comment vous êtes rentrés en contact et pourquoi avoir choisi cet éditeur ?
Je pense qu'on a choisi les éditions Goater parce que du coup, nous, on était beaucoup, notamment en moteur du projet, à être sur Rennes. Et que du coup, c'est un éditeur indépendant qu'on connaît via son bar ou via les livres qu'il édite. Et qu'en fait, Goater, il a une collection LGBT. qui est intéressante et qui nous plaît. Et du coup, il y avait un peu un truc de confiance un peu déjà établi de « Ok, plutôt, il y a moyen que ça passe avec lui et qu'il soit déjà un peu sensibilisé à ces questions-là, parce que ça peut être compliqué là, d'aller travailler avec un éditeur s'il n'est pas un minimum au clair sur certains concepts quand on vient dans du militantisme un peu plus poussé, entre guillemets, là, sur ces questions-là. Et comment ça s'est passé, la collaboration ? Bah, très bien, en fait. Lui, il a tout de suite... Enfin, en même temps, c'était une aubaine, hein, un collectif de trad qui dit « On a ce livre-là, on voudrait le traduire, on n'a pas besoin d'être payé. Juste, si on peut avoir un petit avantage sur le prix des bouquins pour pouvoir les vendre à prix libre, c'est cool. » Donc oui, il a dit c'est parti. Et puis on a travaillé comme ça. C'est lui qui s'est occupé de contacter l'auteur. Enfin, nous, ça nous a permis aussi de nous décharger de toute la partie un peu administrative complexe, quoi. Et on s'était dit qu'en fait, l'idée, c'était soit on trouve un éditeur qui est prêt à éditer le livre avec un prix quand même abordable. Le livre, il coûte 16 euros. Pour un livre de cette taille, c'est-à-dire que c'était le prix minimum pour que l'éditeur s'y retrouve. Mais on a vraiment... insister sur le truc qu'on voulait que ce soit un prix... Enfin, on n'avait pas de prix minimum en tête, mais on voulait que ce soit le moins cher possible.
Est-ce que vous avez prévu de traduire d'autres livres de ce type ou pas ?
Eh ben, la conclusion qu'on a eue quand on a terminé ce projet, c'est que ça nous avait bien plu et que ouais, ça nous dirait bien de traduire, de faire d'autres traductions de ce type ou autre, enfin, de choses qui, je pense, politiquement nous semblent pertinentes. Je pense qu'on est avant tout un collectif de traduction militant. Et du coup, oui, potentiellement, ça va parler de sujets queer, parce que c'est ce qui nous rassemble, mais je pense qu'on pourrait aussi traduire sur des questions antiracistes ou sur les questions sur la psychophobie, etc. Juste, on n'a pas d'idée pour l'instant. Enfin, en tout cas, il n'y a rien en cours là. Et c'était plutôt genre, si quelqu'un a une proposition, on se tient au jus et on voit si on repart sur un nouveau projet.
Ce livre, dont la traduction est Béaba du sexe entre meufs et personnes queer, on peut se le procurer du coup au papier timbré. Et ben, du coup, ouais.
On se demandait un peu, là, pendant l'échange, on sait que, en tout cas, le papier timbré, enfin, la maison d'édition Guater, elle a des diffuseurs, donc il y a d'autres librairies qui prennent ses bouquins et tout ça, mais en vrai, on sait pas trop lesquelles. On se demandait si à la nuit des temps à Rennes c'était accessible et en fait on ne sait pas. Du coup ça va être la mission peut-être d'aller voir les gérantes de la nuit des temps et de peut-être leur faire un peu de lobbying s'il n'est pas sur leur rayon encore. Et par contre je sais qu'on peut se le procurer en ligne. Aux éditions Guater, il y a un site internet et j'ai l'impression qu'il est commandable en ligne. Enfin en tout cas moi je l'ai envoyé à une amie pour qu'elle le commande. Et sinon après ça peut être de nous contacter nous éventuellement via l'association Sexclam. Parce que nous, on n'a pas de structure juridique, on n'a même pas d'adresse mail, rien. Mais c'est un collectif de trad qui est en étroite collaboration avec l'association Sexclam à Rennes, qui a une page Facebook, notamment, et une adresse mail. Et du coup, ça peut être de joindre aussi via cette page pour demander un exemplaire à prix libre. Et on se rencarde, voilà. Tant qu'on n'a pas 50 demandes par semaine, on peut s'organiser pour filer un ou deux bouquins à prix libre. Voilà.
Mais vous pensez peut-être, ok. Mais moi, je veux un orgasme sans toucher les parties génitales. C'est possible ? Oui, ça peut arriver. Pour cela, penchons-nous sur une portion de notre cerveau que nos désirs sexuels viennent activer. Le cortex sensoriel. Ce dernier permet à tout le monde d'avoir des orgasmes. On arrive à mon passage préféré. Tout le monde est capable d'avoir un orgasme. Tout le monde.
Nous, on revendique vraiment qu'on a envie de traduire ça pour un public LGBT. Et en même temps, moi, je pense que... Enfin, en fait, ça ferait du mal à personne si tout le monde le lisait, en fait. Hétéro, hétéra, comme personne LGBT. Enfin, personne cis comme personne trans, etc. Quoi, qu'en fait, c'est un truc qu'on manque dans tous les cas. Après, ce que je constate, c'est que ben, ça bouge quand même. Et qu'il y a d'autres livres qui sont en train de sortir là-dessus. Moi, je pense notamment au bouquin de cette Instagrammeuse... Jouissance Club, qui est intéressant, qui est pas le même que, qui vient pas apporter les mêmes choses, qui est vachement plus graphique avec des images et tout ça, mais qui vient aussi poser des mots là-dessus. C'est étonnamment complet. Bon, ce sera jamais exhaustif, mais en tout cas. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver plus ou moins dans certaines parties de ce livre et c'est pour ça qu'il est précieux.